Voilà, comme c'est l'heure du déjeuner, nous vous proposons un petit banquet cinéphile. Alors, il faut savoir que le poste de radio, c'est un objet du quotidien qui donc est extrêmement présent au cinéma, mais qu'on a très peu vu au cinéma ce mystérieux autre côté, cet autre côté du poste qui, parce que la radio est un médium essentiellement sonore, se dévoile à toute forme de représentation, se échappe à toute forme de représentation visuelle. Rares sont donc les réalisateurs qui se sont aventurés dans les studios de radio et encore moins dans des studios de radio en guerre. Alors heureusement pour nous, il y en a quelques-uns qui se sont risqués à l'aventure et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a choisi de vous parler de deux films qui traitent de ce thème de la radio en guerre, à savoir Le discours d'un roi et Good Morning England.
Oui, alors du coup, précise juste Le discours d'un roi, qui est un film qui a été réalisé par Tom Hooper en 2010 et Good Morning England qui a été réalisé par Richard Curtis en 2009 et donc avec lesquels on va explorer cette thématique aujourd'hui avec vous.
Et donc on est une équipe composée de membres des trois radios et nous allons être présentés par Chloé.
Exactement, il y a aujourd'hui tout droit arrivé de Lyon, Pauline, Cyril et Aliette pour Transistor, Chloé pour Transmission qui est donc dans ses murs et Philippine a la joie et le privilège de m'accompagner pour cette délégation RSP. Vous pouvez nous poser vos questions sur les internets et sur les ondes cybernétiques ou alors vous pouvez le faire en live.
Oui, donc ironie du sort pour vous parler de la radio en guerre et de la guerre tout court. Donc trois équipes réunies dans un bel exemple de coopération pacifique et d'harmonie pour donc aborder la question de la radio en guerre via deux films. Et nous allons traiter cette vaste question en deux temps qui resteront humbles. Tout d'abord, finalement, la représentation de la radio comme outil moyen de la guerre et son rôle dans les deux films que nous avons évoqués. Et également, donc, les aspects plus cinématographiques, c'est-à-dire, finalement, la façon dont la radio est dramatisée. Donc, tout d'abord, la question de la radio comme outil de la guerre et comme rôle à part entière dans des films. Nous pouvons tout d'abord remarquer que dans le discours d'un roi, d'un point de vue, disons, général et théorique, la radio constitue finalement un outil à proprement parler, c'est-à-dire un médium en l'occurrence officiel, qui produit un discours normatif.
C'est ça, le discours d'un roi, c'est exactement l'illustration de la radio comme un outil de la guerre. C'est-à-dire que le roi George VI, qui est le personnage principal du discours d'un roi, est un homme bègue qui, du coup, ne parvient pas à parler en public. Et face à la tragédie que représente la Seconde Guerre mondiale, il doit pourtant s'adresser à son peuple. Et la radio va être finalement le prétexte pour lui pour réussir à dédoubler une parole publique et en même temps une impossibilité à s'exprimer en public. Et donc la radio, qui est quand même un lieu extrêmement intime, un studio de radio, c'est souvent petit, c'est souvent confiné, va lui permettre de transmettre un message à toute la nation, à tout à chacun, va lui permettre de s'adresser à tout son peuple pour l'exhorter à l'effort de guerre. Et je pense que le plus intéressant dans ce film de Tom Hooper, c'est justement cette espèce de dichotomie entre le privé et le public, où on a d'un côté le côté très intimiste, le fait de se retrouver face à un micro, et en même temps l'idée d'une diffusion qui est extrêmement globale et extrêmement étendue.
Oui, parce que finalement, la radio, dans cette optique, est vraiment l'outil du gouvernement qui est utilisé ici, représenté par la figure du roi, utilisé pour une diffusion globale qui s'adresse à tout le pays.
Mais aussi, pardon, outre cette perspective macro, à mon sens, il y a une vraie perspective micro qui est très exploitée dans le film et qui est vraiment intrinsèque à ce qu'est la radio en tant que média qui peut permettre une sorte d'anonymat tout en dévoilant de façon impudique et presque voyeuriste quelque chose de profondément intime et quelque chose qui est au cœur de l'humanité, de l'individualité et dans le cadre du discours d'un roi, de la vulnérabilité d'un être. Et donc pour moi, je trouve qu'il y avait ce grand écart qui était au moins une proposition assez intéressante dans le film.
Oui, et puis même le fait que ce soit finalement le personnage du roi lui-même et pas son porte-parole, ou enfin déjà ça c'est quand même très important aussi, c'est une façon pour lui de s'adresser directement en tant que personne à son peuple, et forcément son message est beaucoup plus fort de cette manière aussi.
Mais justement c'est ça qui est intéressant, parce que ce que tu viens de dire c'est que c'est à la fois le moyen du roi et le moyen du gouvernement. Or justement, si on se souvient, à la fin du film, il y a une scène où on a le roi donc, qui est interprété par Colin Firth qui explose en disant « mais finalement, je suis au pouvoir, mais qu'est-ce que c'est mon pouvoir ? Je ne peux pas diriger les armées, je ne peux pas faire monter ou descendre les impôts, tout ce que je peux faire, c'est un discours. » C'est-à-dire que finalement, le gouvernement, lui, il a des moyens qui sont militaires pour affronter l'Allemagne nazie, Et lui, c'est vraiment la seule arme dont il dispose, c'est son pouvoir représentatif.
Tout à fait. Et finalement, là, se pose la question de qui est instrumentalisé ou qu'est-ce qui est instrumentalisé. Est-ce que finalement, c'est la radio en tant que médium, en tant qu'outil à proprement parler, ou est-ce que c'est l'homme en tant qu'il n'est pas simplement homme, mais roi ?
Mais en même temps, moi, il y a quelque chose que je trouve un peu plus subtil. Vous parlez de propagande et d'utilisation, mais j'ai l'impression que la radio se dévoile... Il est plus difficile, je pense, de transmettre une propagande à travers la radio parce que, justement, vu que la radio s'attache essentiellement aux mots, une des grandes caractéristiques de la radio, c'est que le récepteur, donc le public, peut investir les mots de la signification de son choix. Il peut faire jouer son imagination, faire jouer son histoire personnelle pour ensuite recréer un visuel qui n'appartient qu'à lui. Et c'est là où je pense que, par des images, on a une communication propagandiste qui est beaucoup plus forte, enfin, pas beaucoup plus forte, mais beaucoup plus évidente et beaucoup plus directe que par la radio.
Oui, mais justement, peut-être par la radio, c'est plus subtil parce que finalement, cette fusion entre la personne du roi et la voix qui est entendue à la radio fait que le message peut être aussi très fort, justement parce qu'il est investi d'une manière un peu différente que juste par des images. C'est un moyen de persuasion quand même. Le fait que la radio soit si efficace, c'est aussi parce que entendre la voix de quelqu'un, c'est très différent de juste voir une image. Et c'est ce côté qui a été très exploité, je pense, quand justement ils ont commencé à utiliser la radio d'une manière non plus seulement officielle à travers des communiqués, mais à travers vraiment un homme qui se met en scène à travers la radio aussi.
Oui, surtout qu'on ne pourra pas échapper quand même à la question de l'opposition entre le visuel et l'auditif, entre l'œil et l'oreille, certes, mais en même temps peut-être remarquer que en temps de guerre et toutes les questions de propagande, de rhétorique, de conviction dont on est en train de parler, eh bien, nous ramènent à la dimension hypnotique en fait que requiert le discours, qu'il soit finalement télévisé ou radiophonique, c'est-à-dire la dimension hypnotique. Enfin, souvenons-nous quand même que dans le cadre de l'hypnose, ce qui produit l'hypnose, c'est la voix. Et donc finalement, il y a une intimité qui se crée, il y a quand même une forme de lien assujettissant entre la personne qui s'exprime et la personne qui écoute, qui montre que la vision peut être aveugle, la voix peut aussi être assujettissante, en fait.
Alors, c'est effectivement assez intéressant, parce que si on voit dans le film... je ne suis pas sûre que ce soit approprié de parler de propagande dans ce cas-là précisément, parce que finalement, la radio est utilisée pour passer un message qui est d'encouragement, qui est très positif, et à aucun moment le scénario remet en cause la légitimité du roi à prononcer ce discours-là.
Mais c'est une forme de propagande tout de même. C'est un discours officiel qui vise à convaincre et à enrôler toute la nation derrière la position du roi.
Oui, j'entends ce que tu dis, mais en revanche, dans le film, ce qui est beaucoup plus explicite, c'est cette scène où il regarde les informations, il regarde les actualités télévisées. Et là, on a un discours d'Hitler, et tu viens de parler de la dimension hypnotique. Et là, c'est effectivement l'opposition sur la manière très nette, puisqu'on avait ce roi anglais qui n'arrivait pas à parler, Hitler, dont on sait combien il était charismatique quand il faisait ses discours. Et là, dans le film, précisément, je trouve que c'est assez intéressant que, justement, de Hitler, on ait l'image sur l'écran, alors que George VI, lui, est limité à sa voix pour s'adresser à son peuple.
Oui, bah peut-être justement dans cette dimension hypnotique, la dimension personnelle est quand même très forte. Et ça, c'est ce qu'on voit bien avec Good Morning England, parce que chacun des personnages, justement, a une personnalité très très forte. Et là, c'est assez intéressant, je trouve, la manière dont c'est représenté. C'est-à-dire qu'on nous les présente au cinéma d'abord de manière visuelle, on rencontre chacun des personnages sur le bateau, mais après, ils sont tous caractérisés par rapport à leur émission chacun, de manière très, justement, convaincante sur... montrer comment est-ce que finalement, par leur voix, ils ont chacun une personnalité très charismatique et très hypnotique, entre guillemets, même si là, il ne s'agit plus véritablement d'un message politique. Alors, je crois qu'on a une question de la part du public.
Oui, simplement peut-être une remarque sur la radio au sens, à l'époque, en tout cas, la télévision était beaucoup moins répandue que chez nous maintenant. Et donc la radio était le moyen aussi de toucher tout le monde assez rapidement et partout. Et on sait le rôle, peut-être rebondir dessus, le rôle qu'avait la radio, notamment la radio de la Résistance et le fait que Radio Londres, enfin voilà, on connaît les radios de la guerre. Et l'important, c'est le fait que finalement, c'est un outil tout simple qu'on pouvait emporter vraiment partout. Et c'est peut-être le seul moyen de relier vraiment les gens à l'époque.
Oui, de fait, quand on parle de radio en guerre, il y a d'abord une vision pragmatique qui est toucher le maximum de gens possible, avec la qualité la meilleure possible, mais avec peut-être des moyens pas forcément évidents. Et aussi, liée à une époque, à un contexte particulier où effectivement la télé n'était pas répandue et donc était en ce sens moins efficace, moins
Et aussi on parle de la démocratisation et de l'expansion du domaine des récepteurs, mais il y a aussi celui des émetteurs, parce que quand la radio est arrivée, je veux dire, tenir une presse, c'était quelque chose de très très compliqué. Enfin, diffuser massivement, c'était, au niveau national et parfois même régional, c'était un véritable défi. Le truc, c'est que quand la radio a été créée, il n'y avait pas encore cette division et cette attribution étatique des ondes qui se partageaient. Donc, c'était un peu celui qui avait la technologie, qui était relativement accessible. Pas aussi coûteuse que celle d'avoir par exemple des reporters, d'avoir une presse et ensuite d'avoir des kiosques pour la diffuser. Donc je veux dire, il y a eu une vraie similarité et un vrai effet de reflet en fait sur la massification des récepteurs, presque des réceptacles, puisqu'on est vraiment dans un dialogue et dans une parole complètement verticale, et on a eu l'horizontalité justement de l'interaction qu'avec Internet. Mais en tout cas, il y a eu une vraie diversification. Tant en haut qu'en bas, quoi, entre émetteurs et récepteurs.
Bah, c'est vrai que ça, les gouvernements s'en sont aperçus quand même très tôt et s'en sont beaucoup servis pour la guerre en particulier, mais même avant, je pense notamment aux causeries au coin du feu de Roosevelt, qui était très célèbre à partir des années 30, où il expliquait de manière très intime justement sa politique, très concrète. Mais par la suite, justement, le fait que le gouvernement ait autant exploité cette possibilité, ça s'est transformé un peu en une sorte de monopole d'État, notamment en France. Et peut-être, justement, cette idée de la libéralisation de la parole et que la parole se diffuse à tous, c'est une question qui est remise au goût du jour avec la question des radios pirates dans les années 60 et donc de Good Morning England.
Tout à fait, Aliette. Surtout quand on pense finalement à ce que tu disais, Chloé, sur peut-être une forme de dichotomie et de séparation entre d'un côté les possibilités techniques et matérielles que les uns ou les autres ont ou n'ont pas. Et de l'autre côté, la question du pouvoir, le pouvoir qui va avoir un monopole ou non. Et justement, dans le cadre des radios pirates, ce qui s'esquisse, c'est comment des individus lambda de la société civile vont s'emparer d'une technologie parce qu'elle est à leur disposition et qu'ils peuvent s'en emparer du point de vue de la capacité, mais sans en avoir le droit, s'opposant en cela à un pouvoir qui, lui, finalement, cumule deux possibilités, qui sont à la fois la possibilité matérielle, la capacité au sens strict, et en même temps l'autorisation, puisqu'ils sont le pouvoir par définition. Donc effectivement, finalement, on voit que les choses se recoupent assez bien.
Oui, et ce qui est intéressant pour rebondir sur la question qui a été posée dans le public, c'est que, enfin en tout cas à mon sens, le discours d'un roi, malgré son ancrage dans une époque historique très forte, ça reste un film qui est quand même assez apolitique. Enfin, parce que c'est très curieux, mais on passe tout le film à assister à la préparation d'un discours qui va être un discours officiel, qui va être un discours d'un roi, qui va être un discours gouvernemental. Et à la fin du film, une fois que ce discours est fini, on a un panneau qui nous dit que Georges VI a été un symbole de la résistance par ses discours radiophoniques pendant tout le film. Donc voilà, on a eu à la fois le discours officiel et le discours résistant.
Mais tout à fait, mais c'est parce que justement, là, ce qu'on est en train de quitter, c'est la question de l'utilisation de la radio comme outil et instrument de la guerre, mis en scène dans ces films, pour aborder la question de la dramatisation via le cinéma de la radio. Et finalement, dans le discours d'un roi, effectivement, la radio n'a plus tellement un rôle en soi, mais simplement un contexte créé et le prétexte aussi à une forme d'histoire, de romance, comme Chloé l'évoquait tout à l'heure. Très bien, finalement, le discours d'un roi, c'est d'abord une grande comédie romantique, finalement. Si tu veux expliciter.
Absolument, non mais oui, enfin, la trame narrative, je n'exclus aucun raccourci quand je dis ça, mais c'est du Love Actually, concrètement. C'est-à-dire qu'on parle d'un problème majeur, enfin, qu'on connaît tous, d'une crise européenne, pour revenir à chaque fois au micro. Et je trouve que c'est, je me permets une toute petite digression, je pense que c'est un phénomène qui a une réelle amplitude dans le cinéma, c'est-à-dire de partir de problèmes majeurs, de crise mondiale, de crise potentiellement mondiale, de crise tout court, pour revenir à chaque fois à l'humain dans ce qu'il a de plus petit, dans ce qu'il peut avoir de plus bas, dans ce qu'il a de plus vulnérable. Et ici, je veux dire, si on suit véritablement la trame du film, ce dont on se souvient peut-être le plus, c'est ces scènes qui font un peu presque bourgeois gentilhomme, quoi, entre Geoffrey Rush et Colin Firth. Et cette relation qui se noue à base de, à la base, bon ben on vient pas de monde un peu similaire, puis après on finit par bien s'aimer, puis après je pense que tu m'as trahi donc je te quitte, puis après au final non, c'est le grand amour et c'est la bromance qu'on a connue. Donc au final, enfin, ce film qui se donne quand même à une sorte de sacerdoce et une réelle charge, au final à une trame narrative des comédies romantiques des années 2000, quoi.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs c'est exactement le même processus dans Good Morning England, parce qu'on a un problème national qui est ce problème des radios pirates, qui est très vite individualisé, et en fait dans Good Morning England, les personnages et donc leur radio et donc leur combat n'existent que parce que chacun a une individualité tellement forte. Et en fait, le problème dans Good Morning England, il est traité par l'identité de chaque personnage, celui qui est obsédé du sexe, celui qui est toujours le même, qui veut absolument prononcer son F-word à la radio. Et en fait, le combat, il n'est pas du tout présenté sous un angle national par une espèce de grande réunion entre radio pirates et organes gouvernementaux. Il est juste représenté par cette résistance de ces individus qui sont là avec leur caractère extrêmement affirmé et qui vont défier de manière extrêmement comique, hein, puisque Good Morning England est une pure comédie, qui vont défier l'autorité en place. Donc encore une fois, on a une très forte individualisation d'un problème qui a un spectre beaucoup plus large.
Mais pardon.
Mais ça, c'est vrai que peut-être, juste, on peut préciser que c'est peut-être lié aussi quand même au sujet du film, c'est-à-dire que c'est inspiré de Radio Caroline, je crois, qui est une radio pirate, donc anglaise, qui a bien existé. Et le fait qu'ils aient émis sur un bateau, que tout le film prenne place quasiment dans ce bateau, à part quelques intermèdes sur le gouvernement anglais, enfin ses représentants, fait que c'est un microcosme vraiment à part entière, qui permet aux individus de créer leur monde à travers leurs émissions de radio.
Mais de toute façon, en fait, ils reprennent là la fameuse méthode qui consiste à abstraire finalement un petit groupe d'hommes d'un monde global, d'une échelle globale, pour montrer en quoi ils fondent finalement une forme d'utopie, hein, parce que c'est ça, c'est, ils sont perdus en pleine mer, bon, on sait où, mais au final ils seraient ailleurs, ce serait presque pareil, même s'il y a évidemment tout le côté musique, England qui ressort, mais paradoxalement le Good Morning England, c'est Good Morning tout pays possible, hein, presque. Et donc, je veux dire, d'un point de vue strictement dramatique, ils pourraient être ailleurs, ce serait un petit peu la même chose. Et ils reproduisent une vie à part entière. Ils sont un laboratoire, finalement, d'idées et d'expérimentation. Mais en même temps, ils sont donc dans l'opposition, dans la résistance. À la fin, on a l'irruption du pouvoir qui vraiment va se manifester dans toute sa grandeur et splendeur contre cette radio parce qu'elle est pirate, c'est-à-dire qu'elle est d'opposition. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'à la base, ils sont dans l'opposition de facto, mais pas parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils sont en révolution, mais simplement parce que leurs goûts musicaux sont dits par le pouvoir comme étant non valides, c'est-à-dire ils sont censurés, mais ils sont pas là pour s'opposer, ils sont là simplement pour vivre leur passion, en fait, à la base, et ils s'organisent de manière à pouvoir la vivre, mais de facto ça donne une opposition au pouvoir qui va les rattraper à la fin. Et d'ailleurs, dans le cadre de leur microcosme qu'ils forment, c'est pas simplement un laboratoire d'idées d'expérimentation et un petit monde en soi, c'est également tout un régiment qui s'organise. Il fonctionne un peu comme une armée avec avec les différents rôles entre, voilà, le chef, celui qui doit être encore initié, le repos du guerrier qui vient par l'intermédiaire des figures féminines ponctuelles, etc. Enfin, du coup, on a tout le côté vraiment dramatique qui ressort.
Aussi, enfin, tu parlais d'utopie, et je trouve que c'est vrai, mais ce qu'amène très très habilement le film, c'est d'éviter un effet vase clos et un effet tunnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de plans et de split screen qui sont vraiment donc dans les effets purement 60s et tout ça, qui interviennent justement pour montrer les réactions en vif, en simultané, en fait, de la population. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque personnalité a son petit, enfin, son exactement, exactement. Je ne l'aurais pas mieux dit, ces auditeurs. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont pas, ils sont quand même pas exactement en autarcie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que eux, peut-être s'y croient, eux n'ont pas exactement la conscience de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur des milliers de personnes sur le territoire britannique, mais en tout cas, eux, justement, ils font partie de la pure quotidienneté de leurs concitoyens, se sont invités dans leur chambre. On voit très souvent d'ailleurs des gens qui se regroupent pour les écouter. Donc, réellement, ils deviennent, enfin, la radio devient symbole non seulement de transgression, mais d'union, d'unification, et comme tu le disais, ce côté utopiste et de toute façon rattrapé par le fait que c'est un bateau qui ne se choisit d'être qu'entre des hommes, ce qui serait un rêve, n'est-ce pas, et de se faire refourguer en femmes et tout ça. Donc en même temps, enfin, je trouve que encore une fois, il y a cette belle tension qui est introduite dans le film.
Tout à fait. En fait, la diffusion permet ici la contextualisation, c'est-à-dire elle permet l'ancrage du bateau dans un port un petit peu défini.
Mais d'ailleurs, on parle là de microcosme et d'autarcie, et à mes yeux, c'est une des grandes différences entre les discours d'un roi et Good Morning England. C'est que formellement, il y en a un qui a des partis pris et l'autre qui n'en a aucun. Le discours d'un roi, c'est extrêmement consensuel et très, très, très classique dans sa mise en scène. Alors que dans Good Morning England, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre de mise en scène, on ne va pas se mentir, mais il y a un véritable parti pris qui est ce parti pris du bateau et donc du microcosme et donc de l'idée que. À mes yeux, ça représente beaucoup mieux la radio que simplement le micro qu'on voit dans le discours d'un roi. Dans le discours d'un roi, la radio, elle est présente seulement par le micro. Dans Good Morning England, elle est présente par justement tout cet isolement par rapport au monde extérieur. Si on reprend de manière très simple ce que c'est un studio de radio, c'est quelque chose qui est insonorisé, qui est donc fortement coupé du monde extérieur, alors quand bien même il a vocation à être diffusé à l'extérieur. Et dans Good Morning England, c'est ce que tu disais, Chloé, c'est exactement la même idée. On a ces hommes qui habitent sur un bateau, donc qui géographiquement et de manière extrêmement pragmatique sont à l'écart du monde. Même dans leur façon de vivre, ils sont également... Ils sont montrés comme des espèces de marginaux, donc en marge de la société, alors que c'est ce qu'on voit dans les espèces de différentes séquences où on voit leurs auditeurs se rassembler et les écouter, alors qu'ils ont une diffusion qui est extérieure et qui est tournée vers le monde.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et je trouve ça effectivement très pertinent. Je ne sais pas s'il faut hiérarchiser les films de façon aussi brutale.
On peut avoir des préférences critiques.
Bien sûr, et je n'ai pas particulièrement envie de défendre le discours d'un roi, mais cela dit, je ne suis pas sûre que ce soit une absence de parti pris dans la question de la représentation de la radio dans ce film. Ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, dans Good Morning England, on a la radio qui est devenue un lieu, qui est ce bateau qui est effectivement très fort et qui représente cette résistance dont le film parle, finit par parler. Et je pense que la différence avec le discours d'un roi, c'est que la radio elle-même a une vocation totalement différente et représente quelque chose de complètement différent. La radio, dans le discours d'un roi, elle le poursuit. Elle poursuit littéralement le George VI, c'est-à-dire qu'aux différents endroits où il se trouve, eh ben, il y a des micros et il y a des enceintes et il y a sa voix qui tourne en boucle. Il y a sa voix chez lui, il y a sa voix dans le palais, il y a sa voix dans l'église de Westminster où il va se faire couronner. Voilà, c'est pour ça qu'elle... je pense que c'est une forme de parti pris aussi, même si effectivement, en termes de mise en scène, c'est un film très consensuel, je te l'accorde. Mais cela dit, je pense que c'est important de remarquer qu'effectivement, la radio, d'un côté, dans Good Morning England, c'est une île. C'est un lieu complètement isolé de tout et très loin des gens qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la petite bourgeoisie qui a l'impression de faire quelque chose de très transgressif en écoutant Radio Rock dans ses toilettes ou dans sa cuisine. Dans le discours d'un roi, non, les auditeurs sont très très proches du roi. Dans la première scène du discours qu'il fait, il parle devant un micro et à 2 mètres de lui, il y a le peuple, il y a la foule en permanence qui est dans le même plan.
Oui, mais peut-être cette dichotomie dans Good Morning England, elle est quand même légèrement effacée à la fin, puisque c'est là qu'on se rend compte peut-être de l'influence qu'ils ont quand tous les auditeurs viennent les sauver, entre guillemets, de la catastrophe maritime. Et là, on se rend compte quand même qu'ils sont pas aussi coupés du monde que ce qu'ils souhaiteraient. Ils sont plutôt dans un endroit qui est un peu protégé pour eux, des radios officielles, mais malgré tout, ils ont des contacts avec le monde extérieur qui sont justement véhiculés par la radio.
Et c'est assez beau, parce qu'au final, la rédemption vient de l'auditoire, elle vient pas des animateurs, elle vient pas du fait de s'isoler encore plus, elle vient du fait de s'ouvrir au monde et de communiquer directement avec le public. Et je trouve que c'est un message qui est assez pertinent et que moi je trouve vraiment beau.
Mais tout à fait, finalement, dans Good Morning England, on a ce sauvetage donc, des animateurs par leur public, qui est une forme qui montre la réciprocité dans la radio, c'est-à-dire que même si c'est une voix que les auditeurs entendent, eh bien derrière il y a quand même une intériorisation, un rapport, une relation qui se crée. C'est une forme d'intimité réelle dans le discours d'un roi, ce qu'il ne faut pas à mon sens oublier. Comme tu le dis très justement, le micro poursuit le personnage, mais en fait pourquoi le micro poursuit le personnage, c'est parce que dans un cadre dramatique, on a là un récit initiatique, c'est-à-dire d'un homme qui doit non seulement montrer qu'il est un homme par rapport à son frère et vis-à-vis de son père, et qui en plus doit montrer qu'il va être roi alors qu'il n'était pas censé l'être. Et là finalement c'est l'idée de devenir un adulte, un homme, là où il n'était encore pendant longtemps qu'un infans, c'est-à-dire l'enfant au sens strict du terme, celui qui n'a pas encore la voix, celui qui ne peut pas encore parler. Et finalement dans le film on nous montre deux choses, on nous montre un homme qui s'impose dans sa famille, mais également qui s'impose dans un pays et dans un monde en guerre.
Et nous, ce n'est pas le micro qui nous poursuit, mais bien l'horloge qui tourne et n'en finit pas de tourner. Du coup, Pauline, est-ce que peut-être tu pourrais conclure cette émission cinématographique ?
Eh bien, je peux au moins essayer, même si le cinéma, évidemment, se passe toujours de conclusion. Nous pourrons remarquer que dans Good Morning England, nous avons affaire à une dramatisation véritablement outrancière, avec l'histoire déjantée, d'hommes complètement finalement largués, des épaves humaines et mélomades, aux dons et aux goûts douteux, qui chassent à n'en pas douter les chantantes sirènes. Jouant aux pirates d'ondes radiophoniques et bientôt marines, ils acquièrent fièrement la stature aussi inattendue qu'inquiétante de monstres marins, confrontés à un triste et terrible toucher coulé à la radio, où la radio, pardon, devra montrer si oui ou non elle est et restera l'organe insubmersible de trublions à la dérive, dont on espère jusqu'à la fin qu'ils sauront au moins se raccrocher à un radeau de la Méduse pour recomposer cette belle famille, et pas simplement ce régiment, qu'est la Radio Team. Cependant, dans le discours d'un roi, nous avons également affaire à une dramatisation, évidemment, dramatisation de la radio aussi poignante qu'élégante. Ce film met en lumière un paradoxe identitaire inhérent à la radio. Médium moderne et arme de diffusion massive, elle est aussi, sinon avant tout, un lieu intimiste. Celui ici où fait rage la guerre intérieure d'un seul homme, mais quel homme ? Roi, chef des armées, c'est à lui que revient la lourde responsabilité de dire la guerre. Mais comment faire quand dire, précisément, est à soi seul un combat ? Par la radio, le salut survient, permettant de dire sans montrer, elle préserve la pudeur et la parole circule sans gêne, libérée des regards inquisiteurs d'un public exigeant, peuple apeuré d'une nation en guerre, libérée aussi du regard scrutateur d'un père bientôt décédé. La radio, ici de simple porte-voix, se fait voix tout court, et l'homme d'accéder à la royauté. Voilà donc, chers auditeurs, pour cette émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Je remercie mes coéquipiers pour ce peut-être tour de force qui a été de nous réunir tous ensemble et de parler de films tout à fait intéressants.
Merci beaucoup aux trois équipes de Transistor, Transmission et RSP de s'être unies pour nous parler de ces deux films. Je rappelle notamment que Good Morning England sera diffusé à 20h ce soir. Donc n'hésitez pas à venir le regarder. Et tout de suite, on va se quitter pour aller déjeuner sur une pause musicale. On va avoir droit à la deuxième partie de Gin Jenny et à une playlist concoctée avec amour, j'en suis sûre. Et je laisse Valentin vous expliquer ce qui va se passer cet après-midi.